Les voix avec Luc Fortin et Christiane Campagna.
Christiane Campagna.
Luc Fortin.
Jean-Sébastien Laliberté. Allô. Trois en trois.
Arrête.
Non, sérieux, on t'invite. Je veux dire, bon, des fois, on invite des gens parce qu'il faut inviter du monde. Des fois, on invite les gens parce qu'ils sont super bons. Et là, on vous laissera décider à la maison qui répond à quel critère.
Okay.
Christiane, je suis content de te retrouver. Et Dieu que je t'ai envié lundi dernier.
Casanova de Montréal.
Avec Brigitte et Anne-Sophie.
Anne-Sophie, oui.
C'est tellement un bon balado.
Ah, c'est une autre demi-heure qui est passée vite.
Mais j'imagine. Ouais. J'imagine, surtout que tu connaissais Anne-Sophie d'avance.
Oui, on avait fait de la radio ensemble. Ouais. C'est bien.
Alors, Gabriel, t'es familier avec Casanova de Montréal?
Oui, absolument. Non, je ne l'ai pas encore terminé, mais écoute, si tu veux qu'on en parle un peu, là, moi, j'étais un petit peu, au début un peu dubitatif parce que ça me faisait beaucoup penser à Dirty John. Je ne vais pas être le premier à en parler.
Mais ils l'ont dit, elles l'ont dit.
Ah, je suis convaincu. Mais j'ai non seulement trouvé l'enquête très, très passionnante, mais je trouve la réalisation très bien. C'est très bien produit. Les choix de musique sont super. C'est bien dosé. Puis il y a beaucoup de sourires, je trouve, dans la réalisation, les arrivées, les mouvements de Brigitte, qui, des fois, quand on écoute des balados, fait par des journalistes, très journalistes, ils évacuent ce genre de choses-là. Puis moi, j'étais très heureux qu'ils créent autour de ça à bonne dose, là, tu sais. Non, je me suis beaucoup amusé, moi, avec. Je suis rendu au troisième épisode.
Okay.
Puis je trouve aussi le choix de. C'est quoi, on peut l'écouter, j'imagine, cet épisode-là?
Oui.
Mais les cinq sont disponibles.
Non, mais je veux dire, votre émission de la semaine dernière que j'ai pas
écouté. Ah oui, t'es encore là, oui.
Mais en fait, c'est que moi, je suis très curieux parce que je trouve le choix même d'avoir fait des versions bilingues. Je sais pas si on en avait parlé.
On en a parlé.
Mais je comprends que t'es pas encore abonné à J'entends des voix.
Mais je m'y mets dès cet après-midi, Luc.
Super bien.
En fait, Gabriel est en train de découvrir l'existence de notre émission. Parce
mais voyons, ça fait trois fois qu'il vient.
Mais non! Non, on l'avait reçu cet été à M l'été
et on a
repassé son entrevue à J'entends des voix cet automne.
Ok,
voilà.
Ok, bon, alors, d'accord.
C'est ceci explique cela.
Ouais. Jean-Sébastien, as-tu écouté, toi, Casanova de Montréal?
Non.
Ok, mais Christiane m'a dit qu'elle t'avait donné des devoirs.
Donner des devoirs, c'est un bien grand mot.
Hey, c'était-tu bon? L'as-tu écouté, Replyer?
Non, mais elle me l'a suggéré vendredi, c'est le prochain sur ma liste, donc je vais pouvoir participer peut-être la semaine prochaine. Mais...
Christiane, pourquoi t'as suggéré ça à Jean-Sébastien?
Parce que ça parlait de musique, notamment. Je sais que c'est un peu par là qu'on est allé chercher Jean-Sébastien, entre autres, les balados de musique. Bon, Replyer n'est pas un balado spécialisé dans les questions de musique, ils sont plutôt spécialisés dans les questions d'informatique, médias sociaux. Mais cette fois-ci, c'était l'histoire d'un gars qui a une toune dans la tête.
Un verre d'oreille, fatigant.
Une chanson des années 90, il s'en souvient clairement, il est capable de la chanter au complet à sa blonde, mais il vient pour la googler et elle n'existe pas. Nulle part.
Catastrophe, il ne peut plus dormir, le pauvre.
Et tout ce qu'ils ont fait pour essayer de retrouver d'où est-ce qu'elle... Toutes les pistes qu'ils ont explorées...
Il y en a qui ont du temps à perdre.
En commençant par embaucher des musiciens pour la reproduire, le gars s'en souvient assez... pour avoir dirigé les musiciens en studio, il leur a dit... Il est pourtant pas musicien lui-même, mais il leur a dit « Non, la flûte fait ça, la basse fait ça, la guitare... »
Parce que ce qu'on espérait, c'est que Shazam puisse identifier la pièce la jouaient.
C'est ça. Ensuite, ils ont interviewé plein de gens. Elle ressemblait à une chanson de Brandy Kid
Lady. Trop, c'est déjà...
C'est vrai. Mais oui, parce qu'on se fait toute notre idée en cours de route de qu'est-ce que pourrait être l'hypothèse. Et... moi, l'idée que j'avais eue, finalement, c'était pas la bonne, mais ils ont exploré cette piste-là aussi. J'étais surprise qu'ils n'aillent pas voir des directeurs musicaux en Arizona, par exemple,
moi
puisque
aussi.
C'est dans cette région-là qu'ils l'avaient entendu le plus. Ouais. Là. Mais,
c'est quoi, c'est épisode 158 de mémoire? Là?
C'est le tout dernier, en tout cas.
Ouais.
Des fois, Replyer, bon, c'est génial, des fois, c'est bof. Ça dépend, là, parce que c'est très différent aussi. De
mais c'est le tout dernier pour ceux qui nous écoutent le lundi.
Donc, c'est bien le numéro 158, The Case of the Missing Hit.
Exactement.
Super, merci Jean-Sébastien.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que tu écoutes, Gabriel?
Ben, moi, en fait, je viens de... En ce moment, sans blague, je suis en train d'écouter le Casanova de Montréal. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais je viens de terminer, peut-être, en avez-vous déjà parlé ici, de Ballad of Billy Balls.
Non.
Vous n'avez pas entendu parler de ça?
Non.
Oh mon Dieu, je suis comme heureux pour vous que vous ne l'avez pas écouté encore. Tu sais, quand tu écoutes quelque chose avec tellement de plaisir que ça se termine, puis là, tu entres dans un espèce de passage à vide où tu dis, attends, je ne peux rien commencer qui va être aussi satisfaisant.
Ouais.
Écoute, le synopsis, le voici. Moi, j'en ai un petit. Moi, j'ai une cold case hit aiguë, là. Je suis un petit peu.
On vient de perdre. Peut-être de perdre Christian.
mais en fait, je trouve que j'ai de la misère à me relancer dans un cold case. C'est-à-dire que je trouve que souvent je reproche aux créateurs de cold case de peut-être le faire, puis que c'est pas assez incarné, ou il y a quelque chose d'un petit peu. Je me demande pourquoi on fait autant de démarches. Puis souvent, je trouve que les nouvelles découvertes j'aimerais qu'elles soient plus importantes, et elles le sont médium. Dans ce cas-ci, c'est un cold case qui se passe dans les fins d'années 70, début années 80, dans le New York malfamé punk de CBGB. Et je veux pas brûler de punch, mais la personne qui fait l'enquête, qui a une voix magnifique, une voix un peu atypique pour ce genre de choses-là, qui mène l'enquête, tu sais pas si c'est une journaliste, une auteure, une artiste contemporaine, mais elle a un lien fort avec cette quête-là, et c'est ce qui va la motiver à aller jusqu'au bout pour élucider ce meurtre-là. Et là où tu sais, on s'entend que la majorité des... Tu sais, ça serait formidable si tous les cold cases seraient résolus, puis que finalement tu te rends compte que c'est un psychopathe, que tu sais, bon, ça existe jamais, là, tu sais, ou une grossière erreur policière, ouais. Tu sais, on rêve de ça, mais c'est souvent, malheureusement, des la vie qui arrive, puis finalement des cas sont oubliés, ou bon, bref. Ouais. Mais dans ce cas-ci, pour pallier au manque de découvertes, et ils en font des formidables, c'est comme la mâchoire te tombe à beaucoup de moments, mais pour pallier à ça, ils explorent la relation entre la personne qui fait l'enquête et la victime. C'est difficile de ne pas le dire, mais bref, dès le départ, il y a un punch important, puis en fait, le rythme des punchs est formidable.
Combien d'épisodes?
Je crois qu'il y en a 10.
Oh.
C'est 10, et petite parenthèse, c'est les gens de Crime Town qui chapeautent un peu tout ça. Crime Town était une série de balados qui était sur Gimlet, mais je pense qu'ils ont fait un truc un peu on the side, qui était justement une espèce de portrait de la ville de Providence. Je sais pas si tu es tombé là-dessus. Qui était vraiment, pour ceux qui ça intéresse, là, Crime Town, c'est une série de balados qui s'intéressait un petit peu à une espèce de mafieux dans une ville qui s'appelle Providence. Je pense que c'est au New Jersey.
Au Rhode Island, en tout cas, je sais que...
Non, t'as raison, c'est au Rhode Island. Et donc, c'était une ville de crime dans les années 90-2000. Et donc, c'est cette gang-là qui chapeaute donc de Ballad of Billy Boss. Donc, le setup, c'est le New York malfamé. À l'époque où New York était une ville apparemment dangereuse, avec beaucoup de crimes, beaucoup de drogue et tout. Et bref, pour vrai, okay. Moi, ce que j'ai dit, même sur les réseaux sociaux, j'ai dit c'est le meilleur cold case depuis Serial.
Bon, alors tu t'abonnes à J'entends des voix et je m'abonne à La Ballade de Billy Boss.
Deal.
Je regarde vers la régie. Est-ce qu'il y a quelque chose que... Écoute, ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu, là.
Tu as quand même écouté.
Oui, je sais.
Non, moi, je n'ai rien de nouveau. Je suis en mode rattrapage, puis sinon, j'ai absolument rien d'intéressant à suggérer cette semaine.
La meilleure, c'est quand tu nous as dit « Je rattrape les émissions de Canal M ». Là, j'ai ri, là.
Et ce n'était même pas
une blague.
Ce n'était même pas une blague.
Jean-Sébastien va en vacances, puis quand il revient, il fait du rattrapage. On lui manque à ce point-là.
Christiane, as-tu découvert quelque chose?
Moi, j'ai pas été dans la découverte parce que j'avais fouillé sur le site de la Fabrique culturelle pour l'heure de Radio McGarrigle. Je suis tombée sur des vieux balados que j'avais pas encore écoutés. Donc, j'ai écouté un premier épisode de Proxémie qui fait découvrir des femmes. Là, j'ai écouté celui de Charlotte Cardin. Ça m'a pas accroché jusqu'à... Je pense que je me suis pas rendue à la fin de l'épisode. Mais je suis tombée sur un autre balado. J'oublie le titre en ce moment. Mais ce sont des personnes pour qui le français est une langue d'adoption. Et qui parlent d'eux tout en faisant découvrir des lieux qu'ils aiment de Montréal. J'ai écouté le premier épisode avec Jim Corcoran. Tout en marchant dans Montréal, j'étais méta à ce point-là.
Ben oui.
Et c'était passionnant.
OK. Bon. On a-tu une bande-annonce?
Oui, on a un extrait.
Il y a une raison pourquoi il est ici.
J'ai dû remonter dans les messages Facebook que tu m'avais envoyés, je pense, il y a 2 mois. Dès que tu as écouté, tu as choisi ton extrait. Ça que j'ai extrait.
Mon Dieu, que je suis professionnel. Genre, je m'impressionne moi-même. Parfait.
Ouais, fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, là, j'ai sur le site ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 jeunes intéressés.
Des 9, on en a retenu 5.
Ah, OK. À vous, des gars?
Tous des gars.
Ouais.
Le premier s'appelle Eric, un jeune en PJ, en protection de la jeunesse.
Sans lien avec la classique hivernale.
Évidemment, par mesure de sécurité et pour préserver l'anonymat des gars, tous les noms que vous entendrez sont fictifs. C'est même eux qui les ont choisis.
Fait que deux affaires. Ouais. Classique hivernal, t'étais pas là l'année passée, hein, toi? T'as aucune idée de c'est quoi, classique hivernal? Non. OK. Écoute, je t'explique un peu ce qu'il y en est. Nous autres, c'est avec la troisième année qu'on fait la classique hivernale.
Ouais.
C'est une journée spéciale où tu vas aller jouer au hockey dehors, dans la cour PJ.
Ouais, je...
Ben, si tu te tentes, là.
C'est qui le gars de Radio-Canada, là?
C'est comme un documentaire audio. On va comme faire une série avec plusieurs épisodes où... on va apprendre à connaître certains gars, on va apprendre...
À chaque fois, vous jouez au hockey ou...
Non, c'est juste une journée, ça. Okay? La journée du hockey. C'est sûr que...
T'aimes pas ça jouer au hockey?
Non.
T'aimes pas jouer au hockey?
Non.
Eric a 14 ans, mais il a l'air pas mal plus jeune. Je lui en aurais donné 12. Eric avait pas l'air intimidé par ma présence, j'aurais plutôt dit qu'il était méfiant.
C'est quoi le but, là, de l'affaire?
C'est ça, le but de l'affaire, c'est de faire un genre de documentaire sur... C'est qui les gars au centre jeunesse? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Puis qu'est-ce que ça a comme impact des activités spéciales comme la classique hivernale?
Je voulais savoir comment que ça se passe des centres jeunesse. Enfin, un peu comme ça. Il est sûr que la cafétéria va ressortir. Là. Tout le monde sache.
Hey, t'es pas centré sur la bouffe pendant tout. C'est ça qui est le fun.
C'est pas, ça m'intéresserait parce que comme je. Pourquoi c'est pas que j'aime pas l'hockey? La vraie raison, je sais pas vraiment jouer.
Mais tu sais, ça, c'est pas grave.
Ça, c'est bien plus fun que rester dans l'unité et faire une rencontre de groupe. Ah, là.
Exactement. Signe en haut, signe en bas.
Signe en haut, signe en bas, mets ton sang. On t'a business. OK, avec ça.
Ouais.
Merci, mon cher.
Bienvenue à Cité des Prairies.
Ouais.
C'est ton projet le plus récent rendu public.
Oui, exact.
C'est quoi, c'est début janvier sur ICI Audio?
14 janvier, je crois qu'il est sorti. Ouais, en fait, ben oui, Radio-Canada Audio, c'est sorti en début janvier. Moi, ça fait depuis... Ben, ça, j'ai commencé à travailler là-dessus en décembre 2018. Pas à temps plein, évidemment. Mm-hmm. Mais donc, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est une balado dans laquelle où on a été invité, ou du moins, on a approché le centre de réadaptation pour garçons de Cité des Prairies. Qui est un centre jeunesse, en fait, là, centre jeunesse, on le sait, là, c'est des endroits où on envoie des jeunes qui ont soit des graves problèmes de comportement, ou que ce sont des jeunes contrevenants. Et on avait entendu parler qu'il y avait une grosse journée à l'extérieur, très festive, qui s'appelle la classique hivernale, où les jeunes allaient jouer au hockey avec une équipe constituée d'adultes, d'invités avec des vedettes. Il y avait Jason Roy-Lévier qui y allait. À chaque année, Georges Larac y va aussi. Donc, il y a les membres de Team Haïti qui sont les champions, les anciens champions de hockey-ball international qui vont là-bas. Et donc, c'était une journée un peu spéciale. Et on a proposé de suivre l'organisation de cet événement-là. Puis c'est devenu rapidement une espèce de prétexte pour rencontrer la population de Cité des Prairies. Puis, bon, j'ouvre une parenthèse, mais Cité des Prairies, dans tous les centres jeunesse du Québec, c'est celui qu'on dit qui est, en fait, le plus sécuritaire. Moi, j'aime mieux dire que c'est le plus sécurisé.
Okay.
Donc, c'est une nuance importante, je trouve. Là, je pense qu'eux, ils choisissent sécuritaire, mais ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que c'est là où l'encadrement est dit le plus intensif. Et c'est aussi un autre mot pour dire où les jeunes sont le plus contrôlés.
Ouais.
Et donc, c'est à peu de choses près, une prison pour jeunes. Mm-hmm. Il y a plusieurs sections dans l'établissement. Il y a une section qui est pour les cas de DPJ. Donc, c'est des cas de jeunes qui ne sont pas criminalisés. Des jeunes qui sont placés là-bas parce qu'ils ont fait le tour du réseau, que ce soit des foyers de groupe, des familles d'accueil et d'autres centres jeunesse moins sécurisés. C'est le centre de fin de ligne pour eux.
Ouais.
C'est ceux qui ont malheureusement des graves problèmes de comportement ou qui ont été victimes de graves problèmes de négligence qui se retrouvent là-bas. Et ça, c'est la majorité de la population de Cité des Prairies. Et l'autre partie, qui est un petit peu moins grande, c'est les jeunes contrevenants. Donc, littéralement, les jeunes qui commettent des crimes graves, parce que, bon, pour avoir une sentence d'emprisonnement quand t'es mineur, faut que ce soit un crime grave, souvent des crimes contre la personne. Et donc, ils sont envoyés à Cité des Prairies. Et ça, c'est littéralement derrière des portes qui sont barrées. Avec ils n'ont aucune sortie, à moins, bon, des trucs médicaux ou des trucs pour aller au palais de justice, des trucs comme ça. Mais sinon, ils sortent, c'est comme une prison. Ils ont des petites cours, puis sinon, ils vivent leur vie dans leurs unités. Alors, dans le fond, ça a été la classique hivernale, la façon de rentrer, puis de rencontrer 5 jeunes, donc 3 jeunes contrevenants et 2 de la DPJ, et connaître leur quotidien, connaître leur vie, parce que c'est un milieu qu'on ne connaît absolument pas, tu sais.
Christiane, t'en as pensé quoi?
Ben moi, j'ai trouvé ça passionnant. Comme je disais, j'étais quand même, je suis restée mêlée quand même jusqu'à la fin. À la fin, là, je commençais à savoir toujours lequel était lequel. Mais oui, c'est un univers qu'on ne connaît pas du tout. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point ces jeunes-là, ils t'ont fait confiance, ils ont vraiment embarqué.
Ben c'est le commentaire que j'ai le plus souvent, puis je suis content de l'entendre. Ceci dit, mais parce qu'on me le dit comme si c'est formidable le lien que tu as créé avec eux. J'ai mis du temps, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, puis pour mon propre plaisir aussi, parce que c'était très. J'aimais aller là-bas, puis j'aimais passer beaucoup de temps, mais faut jamais oublier que c'est des jeunes qui sont là et qui ne font que ça, parler d'eux. Parler de ce qu'ils ont vécu.
Mais pour eux, de voir que quelqu'un s'y intéresse, il me semble que c'est quand même encourageant. C'est...
Ben oui, mais je suis la 15e personne qui s'intéresse à eux. Parce qu'il faut dire que quand un jeune rentre là, il n'est pas mis sur une tablette. Puis, tu sais, j'ai pas passé beaucoup de temps dans des contextes carcérales là, pour adultes. Mais moi, plus je passais du temps avec ces jeunes-là, plus justement, j'ai trouvé chanceux. Parce qu'ils ont beaucoup d'adultes qui s'intéressent à eux. Ils leur posent des questions. Souvent, eux, ça les gosse. Là,
oui,
mais tu sais, des thérapeutes, les éducateurs de suivi, ils sont constamment en train de créer des contacts, essayer de les faire parler, essayer de les faire évoluer. C'est des jeunes qui n'ont pas eu beaucoup d'attention, mais c'est des jeunes qui ont vécu beaucoup de choses. Fait que, réellement, moi, je pense que j'avais un... Effectivement, moi, j'arrivais... J'étais pas ici pour faire un rapport ou une évaluation psychologique. Fait que je pense que pour ça, pour eux, c'était rafraîchissant que c'était juste une conversation entre chums. Si on voulait ça, effectivement, ça peut stimuler l'espèce de lien de confiance qui existe. Mais je les sentais tellement à l'aise de parler de ce qu'ils avaient vécu à cause de ça. À cause qu'ils avaient été très habitués de le faire. Tu sais,
Il y en a un qui te l'a dit à un moment donné parce que tu trouves qu'il a très bien cerné ou qu'il a beaucoup réfléchi à son crime, je sais pas trop, puis il dit ben on le fait souvent.
Mm-hmm. Ah oui, écoutez, ben c'est ce qui... En fait, là, parce qu'on parle du crime à proprement dit, mais aussi, tu sais, j'ai pas juste parlé du crime, mais oui, le crime à propre. T'sais, le crime, c'est une des choses pour lesquelles ils sont le plus à l'aise de discuter. Ouais. Parce que c'est ce dont ils parlent le plus.
Ouais. Ouais.
Étonnamment, écoute, je suis le premier à l'avoir constaté, mais ils sont dans un environnement où ils ne se font. En fait, l'environnement, à chaque minute du jour, leur rappelle ce qu'ils ont fait et on les encourage à travailler sur eux en lien avec ce crime-là. Fait que, tu sais, ils en ont jasé une shot.
Mais pour ceux qui ont, disons, peur que ça soit du voyeurisme, le crime arrive au cinquième épisode, donc au dernier.
Au quatrième.
Au quatrième. Et c'est vraiment pas le but de la démarche de Gabriel. Pourquoi pas de documentaire visuel cette fois-ci?
Ben en fait
parce que t'as fait La Bombe, t'as fait Théo Youssef.
Ouais. Ben en fait oui, c'est ben tu fais bien de le souligner, c'est la première fois que je fais un podcast exclusivement podcast. Puis la première raison c'est que ça n'a pas été pensé avec un film. Ça a été pensé en podcast directement parce que on parle d'un environnement qui est carcéral, on parle d'un environnement avec des jeunes mineurs, ben des jeunes mineurs, des mineurs. qu'on doit protéger dans le sens on ne doit pas
leur identité là.
On doit protéger leur identité. Ouais. Alors le podcast était tout indiqué pour ce genre de projet là. Rentrer là-bas avec un micro c'est pas moi qui ai fait les démarches, c'est ma blonde qui est aussi productrice au développement chez Urbania.
Avec qui Radio-Canada s'est associé, là? C'est un projet conjoint?
Ben oui, en fait, c'est ça. C'est, dans le fond, c'est un projet de Radio-Canada, mais produit par la compagnie Urbania.
C'est ça, ouais.
Donc, Catherine Perrault-Lessard, qui est la productrice au développement là-bas, on a eu le premier... On s'est fait parler de cet événement-là, qui est la classe hivernale, ensemble, mais c'est elle qui a pris les rênes, et ça lui a pris environ 8 mois. Avoir accès à l'intérieur de Cité des Prairies avec un micro.
Avec une caméra.
je sais pas. Même on m'a déjà dit que si on avait voulu faire la même chose avec la caméra, il aurait fallu passer par le ministre de la Sécurité publique lui-même. T'sais. Alors, mais c'est ça, c'est la magie du podcast. Et c'était... c'est pour ça que j'ai vraiment aimé mon expérience, parce que c'est la première fois que je fais un podcast exclusivement. Sinon, c'est bon, je traînais une caméra et tout. Alors là, écoute, je rentrais là, j'avais pas d'équipe. Je rentrais là, je pouvais passer des journées complètes de 8h le matin à 10h le soir. Personne me disait « faut que je rentre chez nous ». Juste ma blonde qui était comme...
Ce que j'entends aussi, c'est... C'est plus facile d'établir des liens parce que justement, il n'y a pas de caméra, puis place-toi là, puis là, il faut placer les lumières.
Évidemment.
Et je me suis demandé, est-ce que, parce que sans dire que on souhaite devenir amis, on développe quand même une certaine affection. Et as-tu été déçu? Faut pas avoir d'attente. Ça, tu l'as compris au gré de tes découvertes. Mais à un moment donné, est-ce que, tu sais, t'as été déçu de certains jeunes jusqu'à ce que tu comprennes que faut pas avoir d'attente?
Ben, non.
Parce que moi, oui, comme auditeur.
Ah ouais? Ouais. Ah ouais, à quel moment?
Ben, quand il y en a un qui s'en va tout le temps.
Ouais.
Quand, je trouve ça vraiment dommage.
Ben, écoute, c'est sûr que des fois, tu sais, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de faire comme « Hey ». Common, là. Mm-hmm. Genre, focus, mon grand.
Ben oui.
Là. Focus, c'est pas si compliqué ce qu'on te demande de faire, c'est de suivre des règlements très simples. Puis moi, même, parce que bon, pour rappeler, il y en a un qui est un jeune que je suis qui s'appelle Eric, qui est dans le secteur pour la DPJ. Puis pour le dire, c'est que les portes ne sont pas barrées. Alors, c'est la loi qui est comme ça. Tout jeune dans le secteur DPJ peut sortir quand il veut. Il n'y a pas de motif pour l'arrêter de sortir. Alors lui, il faisait des fugues à répétition.
C'est ça, on appelle ça une fugue, même s'il décide d'aller prendre l'air.
Ben en fait, oui, mais tu sais, il décide rarement de prendre l'air juste sur le terrain. Là. Il prend la poudre à l'escampette et il disparaît.
Il revient 3 jours plus tard, peut-être.
Exact, ou le lendemain, ou des fois, plusieurs mois plus tard. Ouais. Mais fait que c'est sûr que lui, à un moment donné, j'ai dit, « Hey, suis les règles, mon grand, puis dans 3 mois, là, t'y retrouves tes amis, puis tout va bien aller, là. » Alors, arrête de faire ça, tu ne fais qu'empirer ta situation. Fait que c'est sûr que des fois, mais je n'étais pas déçu, c'était plus... Okay. J'avais comme le goût de... Tu les
débrasse
aimes
un peu?
T'as, oh, j'ai, des fois, je me dis, mon Dieu, j'ai le goût de dire, hey, arrête. Mais c'est là où... sans vouloir brûler de punch, mais c'est-à-dire qu'on en suit des jeunes pendant plusieurs mois, puis il y a des jeunes qu'on suit jusqu'à ses premières sorties provisoires. Ce qui se trouve à être, en fait, à la fin d'une sentence... Le jeune peut commencer à faire des sorties une journée par-ci, par-là, ou une journée par semaine, et il revient dormir au centre. Donc, c'est comme un peu une réinsertion graduelle qui se fait. Puis lui, il avait un emploi, fait qu'il pouvait donc sortir. Et quand c'est le plus grand choc que j'ai eu. C'est quand je lui demande, OK, es-tu inquiet pour la suite? Il dit, regarde, moi, je vais avoir des conditions pour les 4 prochaines années. Fait que tu sais, je vais être quand même encadré. Puis je lui dis... Quelles sont tes pires conditions? Selon toi, quel sera le pire à suivre? Ouais. Puis il me dit, c'est de ne pas avoir d'armes à feu.
Ouais.
Puis pour répondre à ta question, effectivement, là, j'ai été déçu un petit peu. Parce que je me suis dit, hey, ma première réaction, ça a été, oui, je suis déçu. Parce que là, d'une part, hey, t'es supposé être en réinsertion sociale. Puis la première affaire que tu me dis à un micro, c'est que... Puis t'es sur une corde raide en ce moment parce que là, t'as un emploi, mais ton comportement à l'intérieur est un peu médium. Fait que tu risques de perdre des privilèges. C'est que t'as peur de pas avoir d'armes quand tu vas sortir.
Mais pour lui, c'est une façon de s'identifier. C'est une...
Ben, c'est là où... En fait, ma première réaction, ça a été la déception, mais
ben oui.
c'est là où je me suis dit, attends, calme-toi, parce que tu ne vois pas la vie et la réalité dans le même prisme que lui. C'est là où on se rend compte de la distance qu'on a dans notre perception de la société. Mettons, je vais dire, nous, à la limite, au moins, pas criminalisés, là, ou qui n'ont pas été, à cause de leur environnement ou à cause de leur background, attirés vers la criminalité ou même... on n'a pas développé de gros problèmes de comportement, ben c'est on ne voit pas le monde de la même manière. Et puis c'est justement le travail des intervenants des centres de réadaptation. On oublie ça, ce mot-là. T'sais, on parle de centre jeunesse, mais c'est un centre de réadaptation.
Ouais.
Donc on prend ces jeunes-là puis on leur dit, hey, le prisme que tu as devant les yeux, remplace-le ou du moins adapte-le au nôtre, puis tu vas mieux comprendre comment agir en société, tu sais.
Puis le personnel dit qu'au fond, ils doivent réussir en quelques années, ce qui est chez la plupart des gens est le produit de toute une éducation, de toute une vie.
Ouais, exact. Mais fait que c'est ça que la série essayait de faire, en fait. En rentrant là-dedans, tu sais, je le disais d'emblée, pour moi, ce qu'on savait des centres jeunesse, c'est que ça pouvait être assez trash. On se dit, ben, on entend parler des cas de fugue, surtout chez les filles vers des réseaux proxénètes. On entend parler des fois d'émeutes, on entend parler des fois de suicides en série dans ces centres-là parmi la population des jeunes. Alors, pour moi, rentrer là-bas, je rentrais dans un univers où est-ce qu'on imaginait beaucoup plus de négatifs que de positifs, puis surtout, on n'établissait pas beaucoup de nuances. On connaissait pas les nuances de la personnalité puis de ce que c'est de la vie de ces gens-là.
On dirait que l'univers que tu viens de décrire est un univers qu'on trouve davantage dans la série Rap Carcéral, qui est aussi sur RC Audio, où là, vraiment, ce sont des majeurs, des adultes qui te le rap de la rue et la prison et comment, finalement, c'est presque... intertwined, presque un avec l'autre. J'ai envie de te dire, moi j'ai beaucoup aimé, j'écoute souvent mes balados avec le casque d'écoute, lorsque les gars courent après quelqu'un qui s'est enfui puis qui a passé par-dessus la clôture, on entend la neige, on entend le crunch des bottes, on entend les portes, on entend l'écho des corridors. Ben, pour moi qui ne vois pas, c'est sûr que l'image sonore est très bien relevé. Ça, bravo, là, j'aime beaucoup.
Ben, c'est pour ça que moi, j'aime ça quand tu me dis que t'aimes mes podcasts. Parce que je me dis, t'es le meilleur public qu'il peut y avoir, Luc. Parce qu'on tente ça. On veut que les gens, par le son exclusivement, puissent être là. Puis se l'imaginer complètement. Puis sentir le lieu, sentir l'action. Tu sais, fait que oui, mais ça, c'est un des bons moments. Un des moments aussi.
Est-ce que tu as l'intention de faire un suivi, ne serait-ce que
on veut
que
savoir
juste,
dans 4 ans.
Qu'est-ce qui va leur arriver?
Ben, assurément, moi, je me suis beaucoup attaché à eux. Il y en a pour qui j'ai déjà fait des suivis un petit peu par la force des choses, parce que notamment Gretzky, qui termine la série. Ouais. J'ai rarement... J'ai été régulièrement en contact avec sa mère adoptive après coup, parce que même la dernière scène que... Je sais pas si on va là.
Non, ben, les gens l'écouteront.
Les gens l'écouteront, mais tu sais, j'ai pas.
Est-ce qu'il reste 2 minutes?
Il reste 2 minutes déjà.
Il reste 2 minutes.
Mon Dieu Seigneur, ça passe vite. Mais tout ça pour dire que oui, absolument. Moi, je me suis attaché à eux. C'est 5 jeunes que j'ai passé des dizaines d'heures avec eux. Puis, tu sais, au final, je me suis beaucoup attaché à eux.
Parce qu'il y en a un, là, c'est été 2020. Ses conditions ou sa libération, il y en a un, c'est comme... Bon, toi,
ben
tu
oui,
sais
mais
peut-être des choses que nous, on ne sait pas. Là,
techniquement, il n'y a rien de prévu en ce moment, mais moi, je les garde en tête, c'est sûr et certain que je pense à eux encore beaucoup. Fait que, tu sais, oui, ça pourrait se passer, mais c'est sûr que c'est très engageant, puis c'est beaucoup de travail, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est pas une bonne raison
de pas le faire. Là-dessus, là. Je me pendant que je fais d'autres choses.
C'est ça.
Ça marche la première fois.
Mais oui, je suis d'accord avec vous. Là. C'est à suivre parce que c'est de savoir un peu si ça marche, tout ça. Puis savoir comment eux sentir en sortant de là, effectivement, ça ferait une merveilleuse série.
Ouais.
Alors, pour ceux qu'on a intrigués, ça s'appelle Bienvenue à Cité des Prairies. Pour l'instant, ça se trouve sur l'application audio.
C'est sur iTunes aussi. En fait, ce sont les plateformes externes aussi. Ils ont sorti ça il y a peut-être une semaine et demie.
Ah, okay.
C'est disponible partout. Bienvenue à Cité des Prairies.
5 épisodes, entre 35 et 43 minutes chacun.
À peu près, ouais.
Ouais. Fait que ça s'écoute très bien. C'est bousculant. Puis on voit vraiment qu'il y a des gens qui travaillent très fort pour le bien-être de ces gens-là. Tu nous as fait découvrir
Oui, la passion des deux Kevin est quand même à souligner.
Ouais, on en a beaucoup parlé, mais oui, effectivement.
Ouais. Ben, il nous reste 15 secondes. Merci Gabriel Alain-Gagnon. Monsieur La Liberté, on se retrouve probablement la semaine prochaine. Merci, Christiane.
Merci.
On ne sait pas qu'est-ce qu'on a lundi prochain.